Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a des chambres lumineuses où j'ai taché les draps blancs en mangeant des oranges, des baignoires roses, des gares la nuit, des rues obscures dans des villes inconnues, des langues que j'ignore encore entendues dans des cafés bondés le matin, des années d'usine, des appartements crasseux dans des quartiers minables, des moments d'intense solitude, tant de visages. Le dictateur pensait me punir, ce fut une récréation. Pas chaque jour, sinon ce ne serait pas un voyage. Si j'ai fait ce livre, c'est parce que j'en avais marre qu'on associe uniquement l'exil à une douleur. C'est par ces lignes que s'achève « L'exil vaut le voyage », le très beau livre de Dany Laferrière, aussi original dans sa forme qu'intéressant sur le fond, en particulier dans le contexte actuel comme on va le voir. Né en Haïti en 1953, devenu célèbre au milieu des années 80 avec son premier roman « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer », Dany Laferrière a fait de l'exil une part de son identité. Il a vécu entre autres à Miami, New York, Montréal, et il est aussi un académicien atypique puisque le seul dans l'histoire de l'Académie française avec Julien Green à ne pas avoir la nationalité française. La plupart des gens veulent savoir ce que l'écrivain cache, écrit-il aussi. Je me contente de ce qu'il cherche à me faire voir. Dans ce siècle global et fracturé qui est le nôtre, où le cosmopolitisme n'est plus de mise et où le racisme le dispute à la folie identitaire et à l'idéologie, on va tâcher de faire une pause et de regarder durant nos trois petits quarts d'heure ce que Dany Laferrière essaie de nous faire voir. Dany Laferrière, bonjour.
Bonjour.
Alors, je voudrais, avant de commencer, je voudrais citer un extrait du début de « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Voilà le passage que je vais lire. Dans les années 70, au moment où les filles commençaient à vraiment s'ennuyer avec les types fades, pâles et blafards des Ivy League, éclatèrent les premières violentes, puissantes et incendiaires manifestations des Black Panthers. Enfin du sang, crièrent en chœur Joyce, Phyllis, Marie et Kay, désespérés de la baise à la petite semaine qui conduit ce genre d'union conventionnelle et à une vie grise et frustrée, avec les John, Harry, Walter et consorts. Baiser nègre, c'est baiser autrement. La vengeance nègre et la mauvaise conscience blanche au lit, ça fait une de ces nuits. En tout cas, il a fallu quasiment tirer des dortoirs nègres les filles aux joues roses et aux cheveux blonds. Le grand nègre de Harlem baise ainsi à n'en plus finir la fille la plus blanche, la plus insolente, la plus raciste du campus. Le grand nègre de Harlem a le vertige d'enculer la fille du propriétaire de toutes les baraques de la 125e rue, la baisant pour toutes les réparations que son salaud de père n'a jamais effectuées. La jeune blanche aussi prend pleinement son pied. C'est la première fois qu'on manifeste à son égard une telle qualité de haine. La haine dans l'acte sexuel est plus efficace que l'amour. Je voulais commencer par ça. D'abord, première question, est-ce que vous pourriez publier ça est-ce que vous pourriez publier ce livre aujourd'hui dans le contexte actuel?
Les livres arrivent, les livres apparaissent.
C'est toujours
la même question. Quand je l'ai publié, c'était encore pire d'une certaine façon parce que il n'avait pas encore été publié. Mm-hmm. C'est-à-dire, le mot nègre n'était jamais prononcé. Et comme ça, en Amérique du Nord, on n'avait pas encore les rappeurs et on est au Canada, on est à Montréal, au Québec, personne n'avait jamais écrit ce mot-là dans un contexte comme ça, un certain lien avec la race et le sexe, avec une telle jouissance, une telle gourmandise, mais en même temps quelque chose de l'ordre de l'art primitif et de la peinture de Matisse. Il y avait quelque chose d'extrêmement gai dans ce mot-là, dans ce livre-là, « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer ». Et c'était un mot qui était prononcé toujours, écrit dans un sens presque désagréable, si l'on peut dire, et une insulte et pour les Noirs. Et quand les Noirs le prononçaient, c'était comme une grenade.
Mais c'est pas seulement le mot, c'est-à-dire que dans votre livre, vous, enfin, c'est un peu le mot, parce que vous dites, je sais plus où, vous dites quelque part que quand le livre est sorti aux États-Unis, tous les grands journaux ont censuré le titre et qu'on vous avait demandé de le changer et que vous avez répondu c'est l'Amérique qui doit changer, c'est pas mon titre.
C'est pas mon titre parce que les mots, il faut toujours les accepter. Ils renseignent beaucoup sur la réalité. Et il faut quand même qu'il y ait des écrivains qui prennent des risques pour répondre à votre première question. Et il y a toujours des livres qui sortent et 20 ans plus tard, on demande toujours, on se demande est-ce que on aurait pu publier tel livre à telle date. Les personnes qui les ont publiés étaient tout à fait vivants, étaient conscients des risques à ce moment-là. Et puis, il y a toujours des écrivains qui prennent des risques, qui écrivent des choses. Je voulais écrire un livre, vous savez, à cette époque-là, je lisais beaucoup de livres, on avait l'impression que l'auteur cherchait à plaire et au lecteur et cherchait à dire ce qui devrait être dit et aimé. Et moi, j'avais envie de dire un peu la réalité, quelque chose de profondément enfoui chez les humains et quelque chose qu'on cherche à cacher. J'avais envie que plus tard, et dans 20, dans 30, dans 40, et pour ce livre-là, disons 35 ans plus tard, puisque cette année, ça fait 35 ans qu'il a été publié pour la première fois, qu'on sache un peu la température de l'époque et ce qui s'écrivait, ce qui se pensait vraiment, et non des livres un peu fades et qui peuvent être écrits pour toutes les époques.
Alors c'est pas seulement le mot nègre, c'est aussi le contenu du livre, parce que le point central, c'est que vous le dites à un moment donné dans le bouquin, c'est même le titre d'un des chapitres, l'Occident ne croit plus au sexe, c'est pourquoi il essaie de l'avilir, et surtout il n'y a de véritables relations sexuelles qu'inégales, et vous faites une sorte d'étude des relations de pouvoir à travers le sexe entre le blanc, la blanche et le nègre.
Oui, il faut toujours penser que c'est un premier roman. Et j'étais venu à Montréal, j'avais pris l'exil en 76, le livre est paru en 85. Entre-temps, j'avais passé 8 ans dans les usines. Et j'étais un ouvrier illégal. Il y a inégal, mais il y a illégal aussi. Et c'est-à-dire que je n'avais pas les papiers nécessaires me permettant d'être payé selon les critères de l'État. Et donc, j'étais dans une marginalité extrême. J'étais libre, j'étais heureux. Je n'avais rien, je ne possédais rien. J'habitais dans un petit studio minable, comme je l'ai dit. Je passais chaque année d'une chambre crasseuse à une autre, mais toujours lumineuse. Et j'écrivais, je mangeais des légumes, des fruits, et je buvais du mauvais vin, et j'écrivais ce premier roman. C'est comme un rêve. Et je n'ai pas eu depuis, sauf pour ce livre, Autoportrait de Paris avec chat, les mêmes conditions. Et alors que j'étais un jeune ouvrier, et quand j'écrivais Autoportrait, j'étais un jeune académicien. Et j'ai senti la même liberté et la même joie. Et j'ai toujours comparé ces deux livres comme des moments de rupture et dans mon mouvement régulier.
Alors dans ce livre, on va pas passer toute l'émission dessus, mais quand même, les amours et haines sont inversés dans les relations interraciales. C'est ce que vous montrez, c'est-à-dire que la haine est un moteur du sexe à travers le sexe. Vous faites l'étude des relations de pouvoir. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui aux États-Unis, et peut-être pas seulement aux États-Unis, et comment ça se traduit aujourd'hui surtout par rapport à l'époque où vous l'avez écrit?
Ah ben j'ai écrit un autre livre un peu plus tard, pas si longtemps, et cette gonade dans la main du jeune nègre est-elle une arbre ou un fruit, ou ce n'était plus un jeune noir et une jeune blanche dans une chambre, ou c'était une promenade dans cette Amérique-là, où j'ai voulu un peu ouvrir largement les fenêtres pour voir les manifs d'ailleurs. Il y a beaucoup d'événements qui ressemblent à ceux d'aujourd'hui et dans ce livre. L'affaire Mounia, l'affaire Diallo et l'affaire Rodney King à Los Angeles. Et j'ai essayé de regarder un peu la mécanique et des rapports entre les Noirs et la police américaine. Mais en même temps, je ne me suis pas contenté d'une affaire de Noirs. J'ai regardé aussi les écrivains qui donnait le ton. Par exemple, j'ai fait un portrait croisé entre Norman Mailer et James Baldwin et des Truman Capote, parce que j'ai voulu montrer que cette Amérique, elle est globale.
Elle est globale.
Elle est globale. Et que ce noir américain qui est considéré comme une demi-portion aux États-Unis est considéré, vu du point de vue des Américains, et comme plus important qu'un Européen. Mm-hmm. C'est-à-dire nos demi-portions sont plus importantes que tout le reste du monde. Mm-hmm. Telle est la mégalomanie d'un Trump, d'une certaine manière.
Et dans l'attraction que vous montrez, dans l'attraction de la blanche pour le noir, que vous montrez dans comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, et dans d'autres d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi comme ça dans certains excès du mouvement antiraciste, je pense aux États-Unis, je pense pas en particulier la manière dont certains blancs se mettent à on a vu les images de types qui viennent nettoyer les pieds, laver les pieds de pasteurs noirs pour expier leur péché de blanc.
Oui, enfin, il y a toujours des images à chaque époque comme ça, et on dirait que chaque groupe cherche des images les plus étonnantes. Hein. Oui, je pense pas que ce soit si important tout cela. Mm-hmm. Mais il faut voir aussi dans les textes que vous avez lus une métaphore de cette Amérique,
oui,
où il n'y a pas les choses en présence ne sont pas uniquement des personnages. Ce n'est pas uniquement le noir et la blanche. C'est une façon de voir l'Amérique, oui, aussi, et c'est une façon très provocante de la décrire aussi. Ce n'est pas un souhait, et cette inégalité, oui, et c'est de voir le jeu qu'il y a. Où l'acte le plus nu, le plus primitif, le plus simple, qui est celui, l'acte sexuel, un homme et une femme ou deux hommes, deux femmes, est dans un lit, est nu, sans armes, à peu près, et c'est là que les armes, qu'on sorte les armes, c'est là que la conscience, que des zones les plus inviolables, infranchissables, des frontières les plus infranchissables s'apprêtent à être franchies, et c'est là, dans cette nudité-là aussi, qu'on cache les choses aussi. Parce que le pouvoir reste tel quel, il suffit d'ouvrir la porte et de descendre sur le trottoir, et le pouvoir reprend ses droits.
Dans cette grenade, dans la main du jeune nègre, est-elle un fruit ou une arme? Vous écrivez à propos de l'Amérique. La dette de l'Amérique envers les jeunes du tiers-monde est immense. Et là, je ne parle pas de la dette historique, l'esclavage, le pillage des ressources humaines, l'endettement, etc. Je parle simplement de la dette sexuelle. Tout ce qu'on nous a promis par les revues, les posters, le cinéma, la télé. L'Amérique est une terre giboyeuse, nous martelait-on sans cesse, venez y chasser les proies les plus appétissantes. Les jeunes filles américaines aux longues jambes, à la bouche rose, au sourire méprisant, venez cueillir les fruits sauvages de la terre promise. L'Amérique sera pour vous, jeunes gens du tiers-monde, cette biche frémissante sous la chevrotine de vos caresses. Et ces appels, on les a entendus jusqu'aux confins de la planète, chez les hommes bleus du désert, le village global, la télé américaine en plein Sahara. C'est-à-dire que... Ouais.
Oui, c'est là. L'Amérique a toujours exporté le sexe depuis Hollywood, le sexe dans sa pudeur, toujours pour dire vous ne pouvez pas avoir ça. Puis on a eu une autre forme aussi d'exportation. C'est les images qu'on exporte le plus. Étonnamment, c'est beaucoup plus le sexe qu'on exporte. C'est un désir plus facile, c'est un fantasme qui est, disons, qu'on retrouve un peu partout, le même, on peut l'imposer. Par exemple, on ne peut pas exporter une voiture, une limousine, qui peut l'acheter dans le tiers-monde. Mais exporter une jeune fille blanche, blonde, et qui sort de la mer, de l'océan Pacifique, et qui est sur une plage, ou bien qui se promène à San Francisco, Santa Monica. Et donc c'est tout à fait facile, et c'est universel, et ça provoque un désir, et le désir du voyage peut-être même.
Et c'est curieux ce que l'Amérique soit à ce point, reste à ce point finalement une sorte de modèle fantasmatique à la fois sexuel, culturel et même révolutionnaire. Quand on regarde les manifestations en ce moment autour de l'antiracisme, c'est encore l'Amérique qui est la référence. On copie en quelque sorte ce qui, sans le comprendre nécessairement tout à fait, mais on copie ce qui se passe aux États-Unis. Ça reste, même maintenant, après tout ce temps et après tous les démentis politiques, ça reste la référence même des révolutionnaires.
C'est la puissance de leurs clichés. C'est-à-dire, ces clichés-là arrivent très tôt dans la vie, parce qu'on passe beaucoup de temps, plus de temps qu'on croit dans les télévisions. Et c'est qui peut vendre ces clichés à meilleur marché? Et les images qui circulent et qui rentrent dans la tête des gens, la puissance de l'image, la force de la circulation de ces images, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on est obligé de discuter à propos des clichés américains. C'est pour ça tous mes livres qui parlent de l'Amérique donnent une grande importance aux clichés. Parce que le cliché, c'est un instantané aussi, et ça donne cette puissance de l'instant, c'est très important. Devant un cliché américain, toutes les autres cultures ont leur passéiste, et rien n'a l'air réel, vrai, direct, et le dollar américain, même quand il n'est pas, bien vu, et même quand il ne vaut pas plus qu'un autre, reste toujours la monnaie. On a l'impression, dès qu'on le voit, on voit la véritable monnaie du monde. Et chaque cliché, c'est ça qui impressionne et qui fait qui rend tout le monde un peu dans leur adolescence quand ils parlent de l'Amérique, surtout en Europe.
Oui, l'Amérique reste le mythe du monde, quoi.
Você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
J'ai choisi cette chanson de Caetano Veloso, Haïti, pour deux raisons. D'abord parce que le texte est remarquable, hein, la manière dont il décrit les soldats tous noirs qui tapent sur la nuque des noirs, des mulâtres et des blancs quasi-blancs, quasi-noirs à force d'être pauvres. Hein. C'est la manière dont il mélange le social et l'ethnique, je trouve ça passionnant. Et aussi bien sûr à cause de référence à Haïti.
Oui, bien sûr. Oui. C'est un beau poète.
Alors, vous êtes né donc en Haïti en 53 à Port-au-Prince, et vous avez passé votre enfance à Petit Goave avec votre grand-mère, qui est un des personnages de vos livres. Votre père, Windsor Laferrière, était réfugié au Québec à l'époque.
Et, non, pas au Québec.
Il n'était pas au Québec.
Non, je ne sais pas qui a écrit ça. Et mon père est d'abord parti un peu partout en Italie, ensuite. Il a été ambassadeur en Argentine à Buenos Aires pour se réfugier, oui, à ce moment-là, à New York.
Voilà.
C'est moi qui suis allé au Québec.
Oui, mais c'est une erreur. Mais l'important, c'est qu'il était réfugié, qu'il fuyait le régime de François Duvalier. Et c'est donc votre mère qui vous avait envoyé à Petit Goave pour vous protéger, en quelque sorte. Et puis vous êtes revenu faire vos études secondaires à Port-au-Prince. Vous êtes devenu chroniqueur culturel à l'hebdomadaire Le Petit samedi soir. Et puis aussi à Radio Haïti Inter, si j'ai bien suivi. Et c'est le 1er juin 1976 que votre ami, le journaliste Gassner Raymond, qui avait 23 ans, qui avait votre âge, a été tué par les tontons Macoute. Et vous êtes senti menacé et vous avez quitté Haïti très vite pour Montréal directement, sans avertir personne, sinon votre mère. Et là, c'est là qu'a commencé votre errance, votre exil, dans des conditions que vous décrivez dans votre premier livre. Vous habitez rue Saint-Denis à Montréal, hein, pas à Paris. C'est là que vous avez travaillé dans des usines, essentiellement jusqu'à la publication de Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, qui est devenu un succès international tout de suite, qui sera adapté 4 ans plus tard. Le livre est sorti en 85, c'est ça, hein.
Oui.
Il a été adapté 4 ans plus tard par Benoît Jacquot, et on vous a comparé à Bukowski, à Miller. Vous avez eu le prix Médicis en 2009 pour L'énigme du retour, qui est un titre très népolien.
Tout à fait. Mais Népole l'a eu de Chéricault. Alors le titre de Népole, c'est L'énigme de l'arrivée.
De l'arrivée, ouais.
J'ai trouvé que c'est normal qu'une arrivée soit énigmatique, puisqu'on ne sait rien de ce qui nous attend. Mais pour moi, le retour est plus énigmatique encore parce qu'on sait ce qui nous attend, mais ça n'empêche pas leur surprise. D'abord, pourquoi retourne-t-on?
Oui.
Donc c'est très important de se poser cette question. Je ne suis pas arrivé à une réponse. C'est pourquoi le titre du livre reste L'énigme du retour. Et quand on sait qu'on ne retourne jamais, finalement.
Et c'est ce que j'allais dire.
Parce qu'on ne trouve pas les mêmes choses. Oui. On a changé et le pays a changé. Les gens ont changé. Enfin, c'est toujours la même chose. On ne se baigne jamais dans le même fleuve.
Oui. Et c'est un écrivain important pour vous, Népole?
Il a été important pendant un certain temps. À un moment donné, je me suis un peu exaspéré par son... Je ne suis pas contre son côté un peu cynique, mais bon, j'avais besoin de quelque chose d'autre que Népole. J'ai bien aimé son arrogance et sa façon un peu très impertinente. Et j'avais beaucoup aimé aussi le jeune écrivain qui démarrait à Londres et dans son petit livre « Comment je suis devenu écrivain » que j'avais trouvé extraordinaire. Et puis après, j'ai trouvé que cette insolence, cette arrogance, cette impertinence était une forme aussi de position de subalterne.
Oui.
Je crois qu'il faut parler calmement et simplement. Et du moment qu'on essaie d'humilier l'autre, c'est qu'on pense qu'il y a un problème.
Et alors, en 2013, vous avez été élu à l'Académie française. Je le disais tout à l'heure, vous êtes devenu le deuxième membre de l'Académie à ne pas posséder la nationalité française. C'était important pour vous d'être
à l'Académie française.
À l'Académie.
Ben, je n'y avais pas pensé du tout. Et quelqu'un m'a fait voir que c'était possible. Et il y a des gens qui étaient placés sur la ligne, si l'on peut dire. D'abord, Jean d'Ormesson, Hélène Carrère-Dancos, Frédéric Vitou, et des gens comme ça. Et des gens que j'espérais rejoindre, comme Amine Malouf et autres. Et donc, finalement, en étant un peu, en regardant un peu les gens qui siégeaient à cette académie, j'ai trouvé qu'il y avait des choses, qu'il y avait des liens possibles. Mais j'ajoute aussi que c'était important dans ce que je voulais faire depuis le début, être un écrivain et de l'avancée. Et c'est...
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est très étrange. Cette expression vient de Henri Christophe, le roi d'Haïti, du nord d'Haïti, qui était un homme très sévère, qui avait construit la citadelle La Ferrière et qui ne tolérait aucune discipline, avait interdit qu'on mène les chevaux, qu'on attache les chevaux trop près de son petit palais, le petit Trianon, où il faisait de musique de chambre et il avait des petits concerts pour qu'on n'entende pas les hennissements des chevaux. Et finalement, un soir, on a attendu de cheval et il a demandé c'était qui. Alors tout le monde a peur parce qu'il vous fait fusiller, ça c'est sûr. Et finalement c'est Philippe Guerrier, héros de l'indépendance, de la guerre d'indépendance, qui s'est avancé et qui a dit sire, c'est moi. Et impressionné, Christophe l'a nommé duc de l'avancée. Alors je trouvais que c'était extraordinaire d'avoir un titre, un vrai titre, qui n'est pas lié à un territoire, mais qui soit lié à une action. Et donc c'est pour ça que j'ai employé le mot avancée, c'est-à-dire celui qui n'a pas peur d'avancer jusqu'au bord du précipice. Et je ne compare pas l'Académie à un précipice.
Oui, je vous demander.
Non,
ouais.
Le mot précipice est considéré comme le danger, le grand danger.
Bah oui. Et
j'aime bien me mettre en danger.
Oui, oui, non, mais il y a un danger à l'Académie, je vous confirme, il me semble.
Oui.
Mais
non, c'est... Non, pas du tout, je n'y vois pas. En fait, peut-être que ce serait bien que j'y vois un danger, puisque j'aime le danger.
Mm-hmm. Alors, vous avez parlé de cynisme tout à l'heure et d'arrogance. Et dans Comment faire le bon avec un nègre sans se fatiguer, il y a cette phrase à un moment donné. Votre narrateur explore ses rapports avec une fille qui s'appelle Miss Littérature dans le livre. Et Miss Littérature dit que je fais l'amour comme je mange, dit le narrateur, avec la voracité d'un homme perdu sur une île déserte. Je lui fais l'impression d'être un enfant innocent qu'on aurait trop maltraité. Et vous ajoutez, le narrateur ajoute, elle peut bien se permettre d'avoir une conscience pure, claire et honnête, elle en a les moyens. Quant à moi, j'ai su très tôt qu'il fallait en finir avec ce produit de luxe. Pas de conscience, pas de paradis perdu, pas de terre promise. Dis-moi, quelle aide une conscience peut-elle bien m'apporter? Elle ne peut être qu'une cause d'embêtement pour un nègre rempli de fantasmes.
Eh bien oui, c'était le portrait d'une époque peut-être. Qui ressemble un peu à ce que nous allons connaître dans quelques temps avec cette Amérique en éruption. Et oui, il y avait quelque chose de, il faut se débarrasser de tout ce qui pourrait vous emmerder.
Pas un exil sans nostalgie, quoi.
Un exil sans nostalgie, oui. Oui, oui, pour vivre pleinement. Mmh. Et il faut pas amener avec soi ses oripeaux.
Alors c'est le sujet de l'exil ou le voyage, hein, où l'exil est vu comme une bénédiction en quelque sorte, même si c'est pas forcément une bénédiction facile.
Comme la vie de tout le monde.
Comme la vie de tout le monde.
De tout le monde. Je voulais un peu rapatrier et disons les mots qui me concernent. Et comme l'exil par exemple, essayer de donner une définition personnelle au lieu d'accepter la définition courante qui est souvent celle du pouvoir. Qui dit que l'exil, on vous chasse de l'endroit où vous êtes et vous êtes condamné à passer le reste de vos jours à pleurnicher. Et je me suis dit, est-ce vrai qu'on a 23 ans, qu'on arrive dans une magnifique ville comme Montréal, avec des jeunes filles qui boivent du vin tard la nuit, aux terrasses des cafés, et quel bonheur d'être. Quand par exemple, en Haïti, j'étais toujours triste de voir ma sœur rester à la maison parce que les jeunes filles ne connaissent pas la nuit. Et la nuit me semble quelque chose d'essentiel dans l'équilibre du monde, puisque le jour, la nuit, au moins. Mmh. Au moins ça. Et donc j'arrivais là, je me suis dit, peut-être qu'on me trompe encore une fois sur ce que je suis, et que le dictateur ne peut pas m'identifier, ne peut pas dire qui je suis, et que je ne suis pas un exilé, je suis un voyageur. Mmh. Et ce n'est pas une punition que je vis, mais j'en fais une récréation.
Alors, c'est un livre illustré, écrit d'une écriture manuscrite, c'est un grand format. C'est un livre très, très intéressant à regarder, pas seulement à lire, mais aussi à regarder, qu'on peut regarder de plusieurs manières d'ailleurs, parce que vous mettez, la mise en page est telle qu'on peut tomber sur des phrases et les prendre indépendamment du reste du texte, comme les dessins, qui sont des dessins un peu, à mi-chemin entre l'art naïf, on pense un peu de loin quand même, mais quand même, on pense à Basquiat, vous avez connu d'ailleurs, vous avez rencontré.
Oui, mais c'est pas toujours Basquiat, Basquiat n'est pas le seul. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens, de disciples, de gens qui imitent Basquiat. Non, mais moi, non, j'ai fait cela, et si ça ressemble un peu à Basquiat, c'est parce que Basquiat aussi tient une source de l'art primitif haïtien, de la peinture primitive, spontanée et directe. Et voilà, et c'est de là que je viens. Je viens d'un pays où les gens font de la peinture comme ils jouent au football.
Alors on découvre des pans de la littérature caribéenne, haïtienne, Jean-Claude Charles, qu'on a pu connaître dans les années 80, mais qui est quand même assez oublié aujourd'hui.
Je le remets en activité.
Oui, Duras disait que c'était le meilleur écrivain à l'époque. C'est l'auteur de Manhattan Blues, notamment. Magloire Saint-Aude, que je connaissais pas, dont vous faites des portraits, dont vous citez des extraits de poèmes. Mon chien avance vers l'étendard de ma mort, lu au ciel de mes cils, c'est très beau. Hein.
C'est un très grand poète, ouais. et qui a été bien lu par Breton d'ailleurs, qui en a parlé avec beaucoup de générosité aussi, disant vrai, et le comparant au plus grand. Et c'est une œuvre en apparence brève, il y a trois plaquettes, dialogue de mes lampes, Tabou déchu. L'œuvre entière fait à peu près 44 pages, l'une des œuvres les plus denses de la poésie de notre époque, Et si je peux dire, moi je le compare, je le mets au même niveau que les plus grands. Vous remarquerez que dans ce livre, je ne fais pas de ghettoisation, je ne mets pas les poètes ou écrivains haïtiens d'un côté et aussi d'autres. Non, pas du tout.
Je voulais y venir. C'est-à-dire que vous partez de votre aire géographique et culturelle, Haïti et les Caraïbes. Vous refusez de dire les Antilles, hein, d'ailleurs. Vous ne parlez pas des Antilles.
Non, les Antilles, c'est pas très sérieux. On dirait une plaisanterie et de colonisation. Voilà. Haïti est indépendant. Et Haïti, c'est les Amériques. Ouais. Et c'est le Nouveau Monde.
Voilà. Et vous élargissez. Vous élargissez vastement. C'est-à-dire, c'est un livre de cosmopolite et pas un livre de quelqu'un. C'est un livre de quelqu'un qui connaît, qui sait d'où il vient, mais qui n'est pas obsédé par son identité.
Oui, totalement. Bien sûr.
En ce moment. Et c'est ça, c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin. Et le livre est ponctué de portraits d'écrivains exilés. Vous y tenez beaucoup. Alors, le premier d'entre eux est Ovide.
Naso. On l'appelait Naso parce qu'il avait un gros nez.
C'est Ovide, dont vous dites qu'il avait des esclaves, ce qui ne vous
oui,
pas.
Oui,
vous le disiez, vous ne le brûlez pas pour autant.
Oh non, pas du tout.
Non, parce qu'en ce moment.
C'est-à-dire, je n'en fais pas un saint, mais je veux dire que je regarde les choses un peu tranquillement. Je crois que j'ai toujours recherché cela. Et même si je suis bouleversé à l'intérieur, de jeter un regard tranquille sur le monde. D'abord, ce regard tranquille vous permet de mieux voir et de voir beaucoup plus de choses, d'avoir un panorama plus vaste et de faire des zooms et quand vous voulez. Alors que le regard qui est toujours en ébullition, qui est toujours en transe, et ne vous donne pas la possibilité de tout voir.
Bien sûr. Et même réduit le regard en général.
Complètement.
Parmi les autres écrivains exilés, il y a D.H. Lawrence, Victor Hugo, José Lezama-Lima, Nabokov, Madame de Staël, Solzhenitsyn, Mandelstam, Toussaint Louverture à la fin.
Et puis aussi Mandela, c'est-à-dire que je dis Mandela. Cela, on va comprendre, certaines personnes vont dire, mais ils ne sont pas tous exilés, Lezama-Lima n'a pas quitté Cuba. Non, mais il s'est exilé dans son roman, ce gros roman Paradiso qu'il écrivait, et que tout Cuba savait qu'il était en train d'écrire un grand livre, et que finalement, il s'est infiltré à l'intérieur de son roman pour se cacher à l'intérieur de ce livre. Je peux dire, Nabokov, c'est pas le fait qu'il soit aux États-Unis qui m'avait impressionné, c'est le fait qu'il ait changé de langue pour devenir un écrivain, non seulement de langue anglaise, mais un écrivain américain avec Lolita. J'aime bien cet exil-là, un exil dans la langue, et pas simplement auto-traduire, pas simplement en écrivant, en s'intéressant à une autre culture, mais en se refaisant littéralement dans une autre langue, en changeant de peau.
Vous dites que ces écrivains ont en commun d'avoir refusé de rester à la place que l'histoire ou la géographie leur ont assignée.
Oui, tout à fait.
Ce qui est le contraire, encore une fois, j'insiste, mais ce qui est le contraire de la politique identitaire qu'on voit partout aujourd'hui.
Oui, mais je me souviens quand j'étais tout petit avec ma grand-mère et qu'on regardait beaucoup le ciel, la nuit et les astres et au point même qu'elle m'a donné un surnom, Vieux Os, qui veut dire on va faire de vieux os ce soir, on va rester tard. Je me souviens que j'avais l'impression que j'habitais le ciel, que j'avais des résidences secondaires et dans le ciel, que je pouvais avoir une petite maison sur Vénus, sur Pluton, sur Mercure, et on rêvait comme ça, ma grand-mère et moi. Et il y avait à 100 mètres de nous la mer turquoise des Caraïbes, donc les grands espaces, je connais. Donc l'idée de m'enfermer dans une petite boîte, quelle qu'elle soit, et pour quelque raison que ce soit, c'est impossible. Ça ne veut pas dire que je ne me rappelle pas d'une petite boîte du début.
Some people think they jive me, but I know they must be crazy. Don't see their misfortune, else they just too lazy. Je suis le grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of the road. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk
on gilded splinters with the cane of the Zulu. My coffin, drink poison in my chalice. Pride begins to fade, and y'all feel my malice. Put gree-gree on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, I can make you stutter.
The Dr. John, I work on gilded splinters. Pour continuer une seconde, oui, sur cette histoire de cosmopolitisme, quelque chose que vous racontez, alors je ne sais plus dans quel livre parce que j'en ai lu beaucoup, c'est la question de l'arrivée à Montréal et la question du français. Vous racontez que à l'école communale, on vous a dit que le français était indispensable, c'était une langue de civilisation pour ne pas rester un petit créole sauvage. À Port-au-Prince, pendant vos études secondaires, le débat qui tournait autour de la question coloniale et donc celui qui parlait français était le traître, le colonisé, acculturé, valet de l'impérialisme. Et une fois à Montréal, le débat national était celui de la langue, le français cette fois victime de l'anglo-saxon colonisateur et donc langue de la révolte.
C'est une grande leçon de voir le colonisateur qui devient le colonisé de quelqu'un d'autre. Et ça m'avait impressionné parce que je ne m'y attendais pas. Et j'entendais une défense du français, mais comme si c'était un créole. Mmh. Et après, en 90, quand je suis arrivé à Miami, et j'ai entendu des Américains anglophones de langue anglaise, langue des États-Unis, et on peut parler d'une possible disparition de cette langue à Miami, remplacée par l'espagnol. C'est donc chacun défendant l'autre. Donc les langues ont cette manière-là de signaler parfois la disparition d'une culture quand elle se change, enfin, en peau de chagrin. Mm-hmm. Et elle annonce des choses. Ce sont des hirondelles.
En fait, parmi les portraits, il y a beaucoup de portraits, on peut pas faire tout le bouquin. Il y a la rencontre avec Salinger, la rencontre avec le barman qui sert Salinger, qui rencontre Holden Caulfield, le héros de la Trappe-Cœur. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez inventé ou si c'est une anecdote authentique.
Ah, je pense pas que Holden Caulfield soit un personnage vivant.
D'accord.
Mais c'est possible, et il le disait souvent d'ailleurs dans sa vie réelle. Il disait, quand on lui demandait, par exemple, s'il faut faire un film avec la Trappe-Cœur, il disait, possible, mais Holden, je pense, n'acceptera pas. Mm-hmm. Au début, on pensait que c'était une façon maniérée de parler, mais après, on a compris qu'il vivait vraiment avec ce personnage, mm-hmm, auquel il se référait, comme beaucoup de gens font avec leur adolescence, et chaque fois qu'ils ont l'impression d'être au risque d'une certaine mollesse. Et ils se réfèrent à leur adolescence, au noyau dur de leur vie. Et Salinger se référait toujours à Holden. Et Holden Caulfield, c'est quelqu'un d'extrêmement sévère. Mm-hmm. C'est presque fascisant. Hein. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui est toujours sévère dans une morale dure. Et l'adulte est un corrompu pour Holden Caulfield. Et donc, c'est pour ça que j'aimais bien ces deux personnages. Je pense qu'ils sont aussi vivants, aussi réels, aussi concrets l'un que l'autre.
Alors, parmi les autres portraits, il y a Annie Leibovitz et Susan Sontag, c'est vraiment très réussi. Mes préférés, personnellement, c'est le double portrait de Capote, de Truman Capote et Meller. Ça, c'est très drôle et c'est très, très juste, ce que vous dites.
Il y a une anecdote à propos de Meller qui a donné quelques coups de couteau à une de ses épouses. Oui. Il était très fâché.
Il est
sorti aller marcher et finalement il est revenu. Il a donné des coups de couteau à son épouse et quand on a su la raison, c'est impressionnant. Et c'est parce que sa femme avait dit aurait dit, on n'est même pas sûr que Dostoïevski était un plus grand écrivain que Meller. Et j'ai raconté ça à mon ami éditeur Charles Danzig. Et Danzig était très impressionné. Il m'a dit, elle a dit ça vraiment? C'était pas le coup de couteau qui intéressait, c'était comment on fait pas ça à un écrivain. Quand on est son épouse ou son conjoint, on ne le compare pas à un autre auquel on accorde l'avantage.
Alors, il y a aussi on voit passer beaucoup de gens dans les livre. On va passer aussi Nina Simone, que vous avez aperçue au Rising Song à Montréal au début, quand vous êtes arrivé.
Oui.
Et vous veniez d'y arriver, et vous avez une discussion avec le patron qui était Doudou Boissel, qui vous dit, qui vous parlait de littérature, en fait. Et je crois que c'est lui qui vous dit « Je vois l'écrivain comme un être désespéré et seul ». Et vous écrivez « Nina Simone, au même moment, termine son tour de chant, une cigarette à la bouche et un verre de vin à la main. C'est comme ça que je veux écrire ».
Oui, tout à fait. Les mains sont occupées. Et une cigarette à la bouche, un verre de vin à la main et le regard vers la fenêtre. Et il y avait cette grâce, cette élégance et en même temps cette violence intérieure chez Nina Simone qu'elle arrivait à maîtriser par le chant, mais dont on entendait des échos et des éclats et très surprenants. Nina Simone, c'est une des grandes rencontres que j'ai eues et parce que je pouvais lire sa peau. Je pouvais lire son visage.
Alors je voudrais qu'on, pour parler un peu de ce qui se passe en ce moment, je voudrais qu'on écoute à propos de Nina Simone un extrait de l'émission d'il y a quelques jours d'Arrêt sur Image, où entre autres Maboula Soumaoro et Arwa Barkala, qui est ancienne correspondante de la BBC à Dakar, parlent des événements, des manifestations et de Black Lives Matter et de Nina Simone.
En quoi c'est à côté de la plaque de parler de Nina Simone aux 20h de France 2 ?
Parce qu'en fait, Nina Simone, elle est arrivée dans le combat, effectivement, pour les Noirs, mais à la fin de sa carrière, mais parce qu'en fait, elle a toujours été... elle a toujours voulu être dans les clous, dans le jazz, toujours plaire aux personnes blanches, etc. Et puis, à quel moment Nina Simone était une figure particulière du Black Lives Matter ?
Alors, je vous laisse cet extrait parce que... il me semble que il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors l'intervieweur qui est Daniel Schneiderman ne sache pas qui est Nina Simone, bon, à la limite, très bien. Mais tout de même, là, on a des militantes de la cause noire qui ne savent pas qu'apparemment que Nina Simone est morte depuis 10 ans quand Black Lives Matter naît. Est-ce qu'il n'y a pas un oubli quand même complet de l'histoire de la part de ceux qui se réclament aujourd'hui de l'identité ? Est-ce que ce n'est pas un problème quand même, cette absence de perspective ?
Oui, cette absence de mémoire et cette absence de connaissance aussi. Oui, c'est un problème, bien sûr, très grave, qui est aussi une part... j'allais dire mortel d'une culture, d'une civilisation, et c'est que on avance comme ça à vue, on navigue à vue, et à chaque fois le présent c'est un présent incessant et qui s'efface et derrière chaque pas, et c'est très grave parce que la question des combats humains, son importance, c'est son lien avec le passé. C'est un passé qu'on voudrait changer, qui perdure dans un présent, qu'on voudrait améliorer. Et si on n'en est pas au courant, par exemple, quand je dis à des jeunes gens qu'il y a eu, que c'est pas la première fois qu'il y a eu des manifestations comme ça aux États-Unis, ils sont complètement étonnés. Et parce que la phrase qui est américaine, qui est une phrase de notre époque aussi, c'est la première fois. On n'a jamais vu ça. Cette phrase qui revient toujours, on n'a jamais vu ça, et qui est une phrase extrêmement dangereuse pour toute construction. Construction d'un individu comme d'une culture, comme d'un pays. C'est toujours, on n'a jamais vu ça. On a déjà vu ça. On n'a fait que voir ça. Maintenant, quelle est la différence? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est neuf? Eh bien, c'est nous. C'est nous, c'est-à-dire ces gens qui sont vivants en ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut rien faire si on n'a pas un savoir de ce qui s'est passé, de comment on a réagi et à ce moment-là.
Mais est-ce que c'est pas ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence entre le cosmopolitisme et finalement l'âge global où le rapport au passé n'existe plus?
Le rapport au passé et aussi à la rencontre personnelle. Et c'est Miles Davis qui faisait la différence. Il disait, Michael Jackson est mondial, je suis cosmopolite. Il disait, Michael Jackson sort un disque, ça sort avec des millions et millions d'exemplaires, des centaines en même temps, et partout dans le monde. Moi, j'ai droit à circuler partout dans le monde pour aller convaincre chaque personne d'écouter mon disque.
Et comment on va lire votre livre ?
Merci.
C'était Signe des temps,
une émission de Marc Wetzmann, assistée de Sandrine Chaperon, avec à la technique Jean Frédérics et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Dans un instant, une histoire particulière.
O mar, meu coração.